Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Jour après jour, les mesures de la loi pouvoir d'achat se précisent. Maintenant, on a des éléments relativement précis sur ce que sera ce chèque qui sera versé à 9 millions de foyers modestes au mois de septembre. Il ne sera pas alimentation. Avec ce cash versé en une fois sur les comptes en banque des bénéficiaires, eh bien, ceux qui recevront l'argent de l'État pourront acheter absolument ce qu'ils veulent et ne seront pas obligés d'aller acheter des fruits et des légumes. Voilà. La négociation aussi autour du dégel du point d'indice, d'après les informations de BFM Business, est en train de plutôt de s'équilibrer autour des 4%. Alors ce chiffre de 4% n'est pas confirmé ce matin par le ministère public qui a été contacté par Gaëtan Mélin de BFM TV. La négociation continue. Certains syndicats voudraient jusqu'à 10% d'augmentation pour compenser les années de gel. Entre les premières mesures de l'automne 2021-2022, automne-hiver, et ce qui se passe dans ce texte, le pouvoir d'achat du 6 juillet en Conseil des ministres, semblerait qu'on tourne autour des 50 milliards d'euros. La facture commence à être relativement salée, ce qui nous amènera à nous poser la question qu'on a juste évoquée brièvement hier sur la cote d'alerte de nos finances publiques. Atteinte, dit Bruno Le Maire, déjà dépassée, dit Geoffroy Roux-de-Bézieux. On essaiera de voir avec des regards vraiment économiques ce que l'on peut appeler une cote d'alerte en termes de finances publiques et pas simplement un ressenti aux doigts mouillés. Voilà. Alors est-ce qu'on peut imaginer que tout se fera sans impôts nouveaux, tout se fera sans dettes supplémentaires? C'était l'engagement d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, je poserai la question. Et puis la sobriété, c'est un peu le mot de la semaine et on voit que des mesures sont en train d'être imaginées très concrètes pour commencer notamment par les entreprises avec des mesures de sobriété dès l'été sur la climatisation, mais dès l'hiver aussi sur le chauffage et sur les horaires de travail. Et puis on évoquera le chômage qui recule toujours, moins 25 300 inscrits au mois de mai en catégorie A de Pôle emploi. C'est une baisse de 0,8%. Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Bienvenue, économiste au CNRS. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole, président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF, et Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, membre du comité directeur de la fondation Croissance Responsable et secrétaire général de Croissance Plus. Arrêtons-nous une seconde sur la mesure chèque inflation. Philippe Askenazy, on ressuscite une mesure à peu près copier-coller de ce qu'on a fait au mois de mai 2020, au moment où le gouvernement voit qu'avec Covid, il y a des files d'attente devant les banques alimentaires. Et là, donc une mesure qui n'était pas une mesure alimentaire, mais une mesure simplement en cash destinée aux ménages modestes, sera débloquée. Elle était un peu supérieure en termes de montant, 150 euros plus 100 euros par enfant. Là, on est sur 100 euros plus 50 euros par enfant, mais pour plus de bénéficiaires, 9 millions de foyers modestes, c'était 4,1 lors de la mesure du mois de mai 2020. Bon choix politique selon vous ?
Alors, je ne sais pas si c'est un bon choix politique, mais c'est un choix en quelque sorte nécessaire.
Nécessaire.
On est dans une situation où on a une part des Français qui sombrent dans la pauvreté, notamment des familles. Actuellement, on a de l'ordre de 10 millions de pauvres en France. Alors, vous voyez, là, comme on parle de foyers, ça va être une population plus large, mais justement pour éviter qu'il y ait des centaines de milliers de personnes supplémentaires qui tombent dans une pauvreté monétaire, en tout cas.
Donc en dessous de 1069 euros par mois, hein, c'est le seuil de pauvreté.
Voilà, alors c'est le seuil de pauvreté. On n'a pas encore les chiffres pour 2020. Il faut bien avoir en tête que tout ce que l'on a sur le niveau de la pauvreté française, c'est 2019. Très probablement, dans les semaines qui viennent, on va avoir la pauvreté 2020.
On n'a pas d'éléments 2020 sur le taux de pauvreté.
On n'a que des simulations.
Simulations, on était à 14%.
Voilà, les simulations, c'est stable. Il est possible qu'au cœur de l'été, on apprenne que, en fait, la pauvreté avait augmenté en France pendant la crise sanitaire, lorsqu'on sort des simulations, et qu'ils vont faire une relecture en partie du quinquennat précédent. Donc, aussi d'un point de vue politique, il faut faire des annonces dès aujourd'hui d'une lutte contre la pauvreté. Quant à la question de est-ce qu'on fait un chèque monétaire ou autre, voilà, les ménages savent arbitrer entre les différentes dépenses. Donc, il y a des besoins monétaires, que ça soit ciblé sur l'alimentation, ou plus général.
Là, c'est universel.
Voilà, c'est universel, c'est bien plus.
Mais il ne faut pas cibler des produits, Philippe. On sait que si on cible un produit, le producteur aura tendance à augmenter son prix.
Même, si vous voulez, le ménage lui-même arbitre un minimum encore dans ses différentes dépenses. Donc, je pense que d'un point de vue social et également politique, c'était une mesure nécessaire. Est-ce qu'elle va être suffisante pour soutenir la société? Ce n'est pas si évident que cela.
C'est versé en une fois, je précise. Et c'est estimé à peu près comme la mesure de mai 2020 à 1 milliard d'euros. Après, s'ajoutera un chèque carburant, mais c'est autre chose. Le chèque carburant, c'est pas forcément pour... ce sera pour sous conditions de ressources, mais sous conditions aussi de déplacement, de nombre de kilomètres parcourus chaque jour, avec ou non la présence de transports en commun qui pourrait présenter une alternative. Par rapport à ce que vient de dire Philippe Askenazi, Laurent Wronski, est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer qu'on va laisser le taux de pauvreté s'accroître à cause de l'inflation et que le gouvernement est dans son rôle, même si pour l'instant, on aligne des milliards qui ne sont pas financés?
Je pense que la question essentielle, c'est est-ce qu'il vaut mieux distribuer du poisson ou apprendre aux gens à pêcher du poisson? Parce que les gens qui sont pauvres aujourd'hui, si on se contente juste de leur distribuer des chèques, ils seront pauvres demain et après-demain et encore après-demain. Donc la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut les raccrocher au wagon de la prospérité pour qu'ils sortent de la pauvreté? Et donc, il y a un effet immédiat que j'entends bien, avec une urgence immédiate que j'entends bien, mais je veux dire, on n'est pas en train de résoudre le problème. Et si nous, effectivement, nous rentrons dans une récession, le problème va s'accélérer. Donc, on est quand même dans, je le rappelle, dans un contexte où on a, fort heureusement, le chômage qui baisse. Le problème numéro un des entreprises aujourd'hui, c'est de recruter. Il n'y a pas une seule entreprise en France qui ne va pas vous dire qu'elle a un problème de recrutement. C'est très simple.
J'ai jamais vu ça. À ce niveau-là, j'ai jamais vu ça.
Chacun peut faire le test. Vous allez dans n'importe quel village en France, vous allez dans n'importe quel café, vous verrez, il y a marqué « on recherche serveuse », etc. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté un vrai besoin de main-d'œuvre, et il n'y a pas besoin d'avoir que des programmeurs en Python. Et de l'autre côté, effectivement, on a un taux de pauvreté important.
Donc, normalement, non, il n'est pas important. 14%, ce n'est pas un taux important par rapport aux pays de l'OCDE.
Non, mais pour un pays riche, c'est toujours trop important. Je ne suis pas en train de faire une leçon de choses.
Ce sera toujours trop important, mais il y a une partie frictionnelle comme le chômage, de toute façon, qui était impossible à résorber. Et objectivement,
si vous regardez,
j'ignorais que les seuls chiffres valables étaient de 2019. J'avais pas.
Mais Nicolas, si vous comparez par exemple à les périodes que vous prenez avant la guerre, vous allez me dire oui, c'était il y a longtemps. Mais là, il y avait un chômage tel que de toute façon, on ne pouvait pas intégrer les populations. Aujourd'hui, on est dans une configuration où on a un vrai besoin de main-d'œuvre. On est dans une pyramide des âges inversée, c'est-à-dire que le papy-boom est en train de faire des ravages. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont exclus. Donc la question à se poser, c'est pas simplement de distribuer des chèques one time, c'est comment on fait pour les raccrocher au train général.
Ouais. Là, ce sont clairement des mesures d'urgence qui sont prises, mais on fait un peu que de l'urgence en permanence quand même. Christian Poyot, par rapport à cette situation, puis on peut élargir au fait que, si vous prenez à peu près tout ce qu'on est en train de mettre en place, bouclier tarifaire, gaz, électricité, hausse du chèque énergie, c'était en 2021, le premier chèque inflation versé entre décembre 2021 et février 2022 en fonction du statut des bénéficiaires, la hausse des retraites, le dégel du point d'indice, on pourra en dire un mot. Vous êtes fonctionnaire, vous
Oui.
Ben oui, donc vous êtes concerné. La fin de la redevance télé, enfin, 50 milliards a priori à la louche pour à peine un an de soutien au pouvoir d'achat.
Non, mais on retombe sur ce qui vient d'être dit par Laurent.
Rapprochez le micro, il est trop loin.
Le sujet, c'est le long terme et le court terme, d'accord? Oui. Je ne vais pas me lancer dans une analyse, doctrinaire, mais on est en situation, effectivement, de guerre, d'accord? Et avec une pression sur l'énergie qui ne va pas diminuer. La guerre en Ukraine, tous les spécialistes, malheureusement, affirment que ça va être très longtemps. Donc le prix de l'énergie va rester très longtemps. Donc à partir de là, et j'ai écouté aussi, encore une fois, la tribune de Laurent Wronski juste avant 9h, là, qui parlait de courage, moi je parlerai d'effort. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette tous dans la tête, qu'il va falloir faire des efforts et faire évoluer notre manière de consommer l'énergie et puis peut-être restreindre certaines choses. Voilà. Et donc le point principal aussi, c'est de travailler plus pour créer de la valeur. On enfonce des portes ouvertes, hein, des chefs d'entreprise de dire des choses d'une banalité repoussante. Mais donc, il faut retrousser ses manches, travailler plus, faire des efforts traiter ce sujet, sachant qu'en plus, il y a la transformation écologique, environnementale, qui est un vrai point. Bon, on reviendra certainement là-dessus. Mais c'est le sujet principal. Après, que dans le court terme, il y a des gens, notamment les classes défavorisées, qui sont dans des problématiques là, tout de suite, maintenant, très difficiles et qu'il faille les aider. Moi, en tout cas, je suis tout à fait pour sur ce sujet. C'est indéniable. Quelqu'un qui est dans une difficulté alimentaire instantané, il faut faire des efforts. C'est le propre de la société d'aider ceux qui sont dans des situations compliquées. Le tout, c'est de cibler les choses.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Oui, mais si vous voulez, vous prenez les 18 centimes sur le carburant. Oui. Aujourd'hui, ça aide tout le monde, y compris moi-même. Alors que, honnêtement, c'est à moi aussi de faire des efforts et soit de le payer, soit de consommer moins d'essence. Donc, il faut arrêter ce genre de mesures d'arrosage. Quand j'entends dire que certains, il faudrait supprimer la TVA baisser la TVA sur l'essence. Enfin, c'est une aberration. Ça va. Le citadin va être aidé de la même manière que la personne qui fait 30 km ou 50 tous les jours pour aller de son habitation à la ville de province. Ça, c'est n'importe quoi. Donc oui, il faut aider les gens qui sont les plus défavorisés de manière très très ciblée, très 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 ciblée. Et à côté, il faut remettre l'église au milieu du village en disant on doit faire les efforts, on doit plus travailler, on doit travailler plus longtemps. Donc le sujet de la retraite, etc. Alors c'est pas des mots très très sympathiques, très qui soulèvent les foules peut-être, mais c'est la réalité. Quoi, faut un peu de bon sens de temps en temps, ça fait du bien.
C'est ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux dans Les Échos aujourd'hui. Il dit qu'il faut réformer, la réforme des retraites doit arriver en priorité.
Ben oui.
Par rapport à ce qui a été dit, Philippe Askenazy, alors je ne sais pas si vous avez un avis sur baisser les taxes ou pas baisser les taxes. Il est vrai que quand on baisse une taxe, généralement on ne la relève pas après, c'est très compliqué. Et puis c'est une mesure qui n'est pas discrétionnaire, tout le monde en profite. Et donc là on n'est pas sur une mesure ciblée. Et l'idée que, rappeler quand même que toute cette redistribution, c'est pas mal d'avoir produit de la richesse avant pour pouvoir la réaliser, et que la richesse, ça se produit en travaillant, et que travailler plus, la principale mesure du travailler plus, ce sera la réforme des retraites. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors ça fait beaucoup de
éléments
en même temps.
Il y a deux sujets qui n'ont rien à voir.
Alors déjà, il faut avoir en tête que la pauvreté et la question d'être au travail sont pas totalement corrélées. Actuellement, donc là, on a des grands chefs d'entreprise, mais aujourd'hui, parmi les entrepreneurs en France, vous aviez en 2019 12% de pauvres. Et aujourd'hui, on est plutôt à 15%. Ce n'est pas des personnes qui ne travaillent pas. Elles sont pauvres, voilà, mais elles travaillent. Et vous avez 7% des salariés en 2019, et certainement un petit peu plus aujourd'hui, qui étaient pauvres. Et ce n'étaient pas des personnes qui ne travaillaient pas. Donc il faut faire attention, on a aussi une pauvreté laborieuse en France, comme dans d'autres pays, par ailleurs. Et c'est peut-être là où se joue le plus le jeu aujourd'hui. Parce qu'il y a d'un côté un discours qui est de dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas faire une boucle prix-salaire, etc. Mais justement, toute la politique gouvernementale qui est de faire ces arrosages, c'est de donner suffisamment à flot de pouvoir d'achat pour qu'il n'y ait pas des revendications salariales massives, que ça soit du côté de lui étant employeur et comme du côté des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est avant tout une stratégie pour casser une éventuelle boucle prix-salaire. Je ne dis pas que ça va fonctionner ou autre, mais il faut voir sa logique. Ce n'est pas de distribuer, ce n'est pas un État qui est dans une logique non libérale, en quelque sorte. C'est essayer d'éviter ce que l'on voit dans beaucoup de pays européens, des revendications salariales massives à des niveaux très élevés, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne, et notamment dans des segments de services, de services publics. Donc ça, c'est un pan important à avoir en tête de la logique qui est à l'œuvre aujourd'hui de la part du gouvernement.
Ce qui est d'ailleurs bizarre, hein, Bruno Le Maire dit a répété, monter les salaires et fait tout ce qu'il faut à côté pour que ça n'arrive pas, en fait.
Il veut que les salaires... Enfin, ce qu'il veut pas non plus, c'est un écrasement des hiérarchies salariales.
Oui.
Et ça, c'est un autre type de problème et un problème de recrutement pour les entreprises. Si vous proposez à tout le monde le SMIC, ça pose quand même des difficultés. Donc, il faut trouver de manière consensuelle, par notamment la négociation de branches, les moyens de retrouver un minimum de hiérarchie salariale et d'éviter qu'il y ait des frustrations extrêmement fortes. Et c'est un petit peu ce qui est recherché dans l'État. Ce que vous citiez, donc, je suis fonctionnaire, alors effectivement. Donc, la large majorité de fonctionnaires, ce qu'on appelle la JIPA, c'est une garantie individuelle de pouvoir d'achat. Vous avez, tous les hauts fonctionnaires, entre guillemets, donc ça va du chercheur, les magistrats, les commissaires de police, etc., qui n'ont pas droit à cette JIPA. Et donc vous allez vous retrouver quelque chose, s'ils n'augmentent pas le point d'indice, un petit peu absurde. Des fonctionnaires plus bas dans la hiérarchie vont bénéficier de leur garantie individuelle de pouvoir d'achat, voir leur salaire augmenter et dépasser des fonctionnaires qui sont au-dessus d'eux. C'est ça qu'il y a aujourd'hui.
Ça arrive, ça.
Ça arrive s'ils ne font rien. Ça va arriver à l'automne, normalement.
À l'automne, on finira par avoir des catégories B qui sont au-dessus de catégories A.
Sauf si n'augmente non, mais tout à fait. Des catégories, ce qu'on appelle A+,
d'accord.
Des A qui doubleraient des A+, ce qui ne va pas être jouable. Ou
non, il y a un moment, en termes de cohésion, c'est pas possible.
Le point d'indice pour éviter cette situation et que tout le monde en bénéficie. Donc, vous voyez, toutes sortes de... On avait construit un monde qui était sans inflation. Et ce monde n'est pas adapté à un univers avec inflation, ce qui oblige des bricolages absolument dans tous les sens de la part de l'État, mais aussi de l'ensemble des employeurs qui doivent retrouver des logiques d'un monde inflationniste, comment négocier, à quel niveau, etc.
Le dégel du point d'indice va intervenir, on ne sait pas de combien. On verra. Nous, on avait 4% zone d'équilibre de négociation, mais effectivement, la négociation n'est pas finie. Vous voulez réagir ? Allez-y, Laurent Wonski et Christian Poyot.
Par rapport à ce que vous venez de dire, alors, moi, je pense qu'on est, de la même génération, Christian et moi, donc nous, on a connu l'inflation. Hein. Bon, nous, on sait ce que c'est.
C'était 14 ou 15.
Voilà, on a connu ça à deux chiffres. Bon, donc, on sait très bien que, enfin, je me fais un peu ton interprète, que les taux d'intérêt négatifs, c'est une aberration économique. Et on savait très bien que ça durait pas éternellement. Donc effectivement, là, on retrouve malheureusement les fantômes du passé, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de générations qui ne savent pas ce que c'est. Bon, et je pense que ça va être très difficile pour elles. Mais la deuxième chose aussi qui est nouvelle, c'est qu'on a l'impression que l'argent tombe du ciel. Et il y a eu un coup d'accélérateur avec le Covid, parce que je rappelle que avant de rentrer dans la crise du Covid, on expliquait que la France devait faire des économies, etc. Arrive le Covid, et là, finalement, l'argent tombe du ciel. Donc les gens disent, finalement, on est un pays super riche, puisque les milliards pleuvent.
Et ça continue. Non, mais c'est vrai que c'est terrifiant.
La question que je me pose, c'est que là, on est dans une stratégie budgétaire open bar, et il y a forcément une bonne raison de distribuer des verres gratuits à tout le monde. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'alcool dans les bouteilles. Et là, on fait quoi ? Moi, c'est juste la question que je me pose. Et est-ce qu'on se retourne, comme traditionnellement, vers ceux qui peuvent payer plus, etc. Je pense que là, ça ne sera pas suffisant. Donc, simplement, je veux juste expliquer les choses de manière très simple. C'est que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Et que les conneries, je veux dire, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer.
Alors, ça a existé, l'argent gratuit, Laurent Wonski. Hein. Ça a existé quand, tout d'un coup, on a eu des taux d'intérêt négatifs, l'argent était gratuit.
Oui, enfin,
on était dans la situation aberrante où votre banquier vous paye pour vous prêter de l'argent.
Et puis, phénomène. Hein.
Mais ça a duré suffisamment longtemps pour nous permettre de rentrer dans cette idée intellectuelle qu'effectivement, pour un milliard, t'as plus rien. Et maintenant, l'unité de compte, c'est la dizaine de milliards. Quand je dis 50 milliards, là, en à peu près un an de subvention de la vie de tous les jours, il y a certainement des quantités de gens qui entendent ça sans être absolument choqués du chiffre. Autrefois, je vous aurais dit 5 milliards d'euros et on aurait poussé les crédits.
Je voudrais revenir sur le point qui a été dit avec justesse, d'ailleurs, qu'effectivement, il y a un ensemble de travailleurs pauvres. Enfin, l'expression est pas belle, mais enfin.
La pauvreté laborieuse, vous avez dit.
La pauvreté laborieuse, peu importe.
Ça existe, il n'y a pas de problème, ça existe.
Je ne conteste absolument pas ça, mais pourquoi ? Et on est tous les premiers à le dire, les chefs d'entreprise, que le salaire net des gens est trop faible.
Ah.
Le salaire net est trop faible.
Ah.
Non, mais ce n'est pas une nouvelle. Alors là, on le dit depuis.
Non, mais c'est un sujet que je trouve passionnant.
Mais pourquoi il est trop faible ? Parce qu'entre le salaire net et puis ce que paye la boîte, c'est x2. Enfin, en tout cas, dans mes métiers à
donc
moi.
Donc le brut, le super brut, et voilà.
Pareil, hein, pour nous tous. Un salarié de chez Micropole, il touche 1 euro, Micropole, ça lui coûte 2 euros. Il faut quand même être conscient. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a un poids des charges globales qui est phénoménal. Donc le but, c'est quoi ? C'est créer de la richesse. Il faut alléger ce poids sur les entreprises, mais slash les salariés, qui au final, c'est eux que nous sommes tous, qui consommons, etc. etc. Donc, encore une fois, j'ai vraiment l'impression à chaque fois de répéter, mais je le fais avec grand plaisir. Donc, faut regarder les choses très concrètement, pragmatiquement. Il faut travailler plus, il faut alléger les charges pour qu'on puisse embaucher, que les salariés, au final, gagnent plus et qu'on sorte de ces trappes.
D'accord, Christian, mais il y a un moment, il faut financer la protection sociale. On ne peut pas éternellement baisser les cotisations. CICE, cotisation zéro au niveau, enfin, pour l'employeur au niveau du SMIC, il reste que accident du travail et maladie professionnelle. Sinon, la protection sociale n'est pas financée.
Oui, mais on est.
Alors, dans ces cas-là, moi, je veux bien qu'on ouvre le débat pour savoir qu'est-ce qu'on bascule vers l'impôt.
Oui,
est-ce qu'on va vers la TVA, la CSG ?
Vous allez voir, c'est mon thème préféré, vous savez, les 35 heures. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est complètement noyé dans le budget de l'État, mais quand c'était séparé, ça valait 15 milliards par an, les 35 heures.
Ça a commencé à 12 et c'est monté assez vite à 15.
Donc, c'est l'État qui, en fait, nous tous, qui finançons le fait que les gens travaillent 35 heures.
Je suis pas d'accord, Philippe.
Mais oui, mais c'est la réalité. c'est la réalité des choses. Et quand vous voyez des fonctionnaires qui aujourd'hui refusent de travailler 35 heures et se sur 32 heures, ça coûte de l'argent aussi. C'est ça quand même le sujet. Donc les entreprises ne payent pas les charges qu'elles peuvent pas, et c'est l'État qui compense, donc nous tous. Voilà, c'est donc les 35 heures, la retraite qu'il faut faire évoluer, etc. Alors c'est pas des sujets plaisants, mais c'est la réalité des choses. Mais
réagissez, Philippe, parce que
c'est vrai
que les 35 heures, quand on décide que on met en place cette loi qui revient finalement en déclenchant l'heure supplémentaire à la 36e, ça revient à imposer une hausse de salaire à l'ensemble des entreprises, puisque c'était 35 payé 39. Mmh. Et on a très vite mis 12 milliards, puis très vite 15 milliards d'allègements de cotisations par an, parce que sinon ça ne rentrait pas. Hop, il y a 40 secondes, je vous le fais réagir dans un instant. Ah. J'ai pas envie de vous couper la parole trop vite. Donc voilà, on réagit à ça. Je veux bien qu'on pose quand même la question de, ok, le net est trop bas. Alors qu'est-ce qu'on bascule sur l'impôt? Et ce qu'on ça, Emmanuel Macron a commencé à basculer une partie du financement de la protection sociale sur l'impôt. Est-ce qu'on va plus loin? Alors évidemment,
non, mais on peut optimiser le fonctionnement de l'État aussi.
Alors oui,
et des collectivités locales et territoriales.
Oui, mais les collectivités locales, c'est pas payé sur les cotisations des salariés. Là, on parle vraiment de la santé, de la retraite, de l'assurance chômage principalement.
Enfin, c'est des taxes qui au final pèsent sur les entreprises.
Hein. Ah mais oui, c'est ça rentre dans la catégorie des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales. Donc voilà, on marque une pause avec ces deux questions à suivre. Sur l'histoire des 35 heures finalement subventionnées, parce que sinon probablement que ça ne passait pas. Et puis sur pourquoi pas effectivement imaginer que il y a plein d'éléments de solidarité qui sont, enfin d'assurance qui sont plus des éléments de solidarité, et que l'impôt pourrait être sollicité davantage que le travail pour financer l'ensemble. Nonobstant les économies de gouvernance et de dépenses qui seraient réalisables, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Ascalasi, économiste au CNRS. Christian Poyot, PDG de Micropole et président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité directeur de la Fondation Croissance Responsable. J'ai des réactions. Alors Loïc m'écrit. Où va-t-on trouver l'argent? Il est encore une question qui se pose aujourd'hui. Je pensais que l'argent était gratuit, moi. Alors, je ne sais pas quel est le degré d'ironie dans ce qu'écrit Loïc. Et puis, il y a la réaction de Yann. Vous avez connu l'inflation à deux chiffres avec des salaires indexés sur l'inflation. Alors, arrêtez les anciens combattants, écrit Yann. Donc, il doit être jeune. Je rappelle que la désindexation inflation salaire, c'est Jacques Delors 83. Hein. Donc, il y a quand même un moment où il y a eu une grosse inflation. Non, oui, c'est ça. Et il y a eu une grosse inflation et il n'y avait plus d'indexation. Allez-y, Laurent Vorsky. Mais c'est Philippe qui devait parler.
Je réagirai de manière courte. Enfin, comme... Je voudrais juste, merci de laisser la parole à un ancien combattant. Je voudrais répondre je vais donc répondre à ce jeune auditeur.
Vous n'oublierez pas votre canne en sortant.
Oui, absolument, hein. Oui. Je pense que l'inflation n'est absolument pas un phénomène du passé et qui appartient au musée économique. Je veux dire que j'espère qu'on ne revivra pas ça, parce que, à l'évidence, ça va être générateur de très très grosses perturbations et surtout de dislocations au niveau économique. Mais je veux dire que depuis maintenant 5-6 ans, tout ce qui ne devait pas arriver arrive. Et donc là, ça revient avec une certaine violence. J'espère que nous ne connaîtrons pas ça, mais je veux dire que c'est un vrai risque, c'est pas un risque qui appartient au passé.
Et d'ailleurs, la question va, à mon avis, se reposer au-delà que... Enfin, sur BFM Business, bien sûr, mais peut-être au-delà de savoir si la réindexation des salaires doit être une mesure ou pas, qu'il faut donc un choix politique. Oui, les 35 heures, on disait les 35 heures. Qu'est-ce qui vous faisait réagir?
Oui, non, alors en fait, on met beaucoup de choses sur ces 35 heures. Il faut quand même revenir en 1997-1998. On avait eu les allègements Juppé juste auparavant. Et disons, ça avait été déjà une étape importante. Alors vraiment, on parlait ça représenterait aujourd'hui 15 milliards d'euros, en gros, les allègements Juppé. Et il y avait un moment où il fallait réfléchir à comment aller, et de manière acceptable par les partenaires sociaux et les syndicats, dans une étape supplémentaire. Il se trouvait que, historiquement, c'est les socialistes qui se sont retrouvés au pouvoir avec une proposition qui était les 35 heures. Et il y a eu ce package. D'un côté, on va lancer un mouvement global de réduction des cotisations sociales employeurs, notamment au niveau du salaire minimum, et on va promettre, du côté des travailleurs et des syndicats, un gain qui était une réduction du temps de travail. Je pense que d'un point de vue politique, on n'aurait pas aujourd'hui le CICE, les différents dispositifs, etc., s'il n'y avait pas eu, au démarrage de cette fin des années 1990, où il y avait pourtant une forte croissance économique, etc., ce deal politique autour d'une réduction du temps de travail. Ensuite, à partir de 2003, le lien entre réduire le temps de travail et et baisse des cotisations sociales a disparu. C'est François Fillon. Les entreprises devaient avoir signé un accord 35 heures pour pouvoir bénéficier des réductions de cotisations sociales. Il a totalement supprimé ça. Et on a beaucoup d'entreprises, certes en payant des heures supplémentaires à plus 25% entre 36 et 40, qui sont restées en fait à 40 heures. On en voit tout un bloc, à peu près 20% des entreprises sont à 39 heures. Tout un bloc qui sont restées à 39 heures et qui ont touché ces réductions de cotisations sociales. Donc il faut, voilà, d'un point de vue d'économie politique en quelque sorte, c'est un moment où il y a eu une forme de consensus et sur lequel le patronat, même si en fait il s'est très très largement opposé, lorsque vous regardez les premiers qui ont négocié les accords 35 heures, ça a été tous les leaders du CNPF qui allaient devenir le MEDEF. Donc voilà, donc là, ne réécrivons pas en quelque sorte l'histoire, il se trouve que les 35 heures ne sont pas en tout cas la cause aujourd'hui d'une difficulté sur le marché du travail français, et on a un temps de travail français qui est totalement standard par rapport à nos
amis européens. En temps effectif, oui. Moi, je me souviens quand même, Philippe, avoir fait beaucoup de débats sur les 35 heures, en avoir parlé notamment avec les acteurs politiques de l'époque. Et j'ai fait des débats avec Gaëtan Gorce, qui était rapporteur des lois Aubry, qui m'avait quand même dit, alors évidemment, il me le disait off, parce que on finissait par bien se connaître, on en avait parlé beaucoup. Il m'avait dit, oh, franchement, si c'était à refaire, on ne le referait pas, quoi. Voilà. Et je pense que...
Bah, oui, c'est-à-dire qu'au départ...
C'était une hausse d'impôts imposée à tout le monde au même moment. Une hausse de salaire imposée.
C'était quelque chose que personne ne demandait vraiment. Où je vous rejoins...
Oui, d'ailleurs, effectivement... Non, ce qui est vrai, c'est que... Ce que je vous c'était pas une revendication.
Il y avait déjà eu des mouvements dans ce sens-là qui avaient été faits par les gouvernements de droite. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle avoir discuté avec Gérard Larcher il y a un petit moment, qui me disait, oui, on avait lancé... Alors, j'ai plus le nom du ministre du Travail de l'époque.
De Robien,
qui avait fait des lois dans ce sens-là, et qui m'avait dit la même chose en off, naturellement. Oui, c'était une énorme connerie, on n'aurait jamais dû faire ça. Bon, et disons que le gouvernement de Jospin a accéléré sur le sujet, mais c'est une ânerie. C'est la même chose que, là aussi, pour mettre des pavés à la mare, la retraite à 60 ans ou 80, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, ça fait partie des mythes.
François Mitterrand savait qu'il ne fallait pas le faire quand il le fait.
L'argent est gratuit. Donc ça, c'est voilà. On peut travailler de moins en moins et gagner plus. Enfin, vous voyez, comme on disait...
On emprunte la différence.
Le Père Noël, et puis, etc. Alors, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il faut travailler plus, avec des protections sociales pour les plus défavorisés, etc. Bien évidemment, encore une fois, moi, je suis pas en train de dire il faut appliquer les mêmes règles à tout le monde.
Mais... On va pas faire un débat 35 heures. Elles ne disparaîtront jamais. La 36e restera à leur sup. Je pense que, voilà, il y a plein de systèmes... Il y a eu 8 lois d'adaptation des 35 heures.
Enfin, vous savez, ça prouve bien qu'il y avait un problème. Je ne boirai jamais de ton eau, je ne sais pas, on verra.
Vous vouliez rajouter un truc? Non, Laurent, juste un mot... court, parce que je voudrais qu'on aille sur la cote d'alerte quand même, c'est un peu le mot du jour. L'idée d'aller plus loin en termes de bascule de cotisation vers l'impôt, Philippe Askenazy. Vous dites que c'est... À ce moment-là, effectivement, on libère un peu le travail... Et après, il faut choisir, est-ce qu'on fait payer les revenus ou est-ce qu'on fait payer les consommateurs avec la TVA ou la CSG, hein,
Oui, alors c'est un choix largement politique, mais par exemple la santé, qui en Grande-Bretagne est financée par l'impôt,
totalement.
Qui bénéficie à tous. Vous voyez, dans la crise Covid, on a bien vu que l'ensemble de la population, que vous soyez retraité, actif, non actif, etc., ont très très largement bénéficié de notre système social. On peut largement s'interroger si ça doit être le travail, / les entreprises qui financent un système qui bénéficie à tous. Donc, pourquoi pas ce type de bascule? En tout cas, je commencerai par ça plutôt que des éléments, notamment retraite, qui correspondent à quand même des cotisations, enfin, du revenu différé. Vous voyez, si on est dans une logique de revenu différé, on a des cotisations qui sont très largement justifiées, qui peuvent basculer dans une logique fiscale. Ça, c'est des choix politiques, c'est complexe d'un point de vue économique.
C'est un vrai choix.
C'est un vrai choix. Oui.
Décider qu'un système d'assurance payé par des cotisations serait plutôt un système de solidarité payé par l'impôt, c'est vraiment une nouvelle architecture, une nouvelle façon de penser. Ça n'empêche pas d'imaginer qu'il y a peut-être des choses à faire pour baisser les 14 points de PIB de retraite. Alors, on mettrait un peu de capi, ce ne serait pas complètement aberrant. Ça finit par s'équilibrer à terme, mais généralement, quand c'est bien géré, on ne met pas son argent en risque. Et puis, je ne sais pas jusqu'où on peut aller en termes de réforme de l'assurance chômage. Il y, y a sûrement des choses à faire encore, alors qui seront évidemment considérées comme antisociales. Mais il y a quelque chose à rajouter, Laurent, non ?
Moi, je propose juste de résumer ce que je voudrais que nos auditeurs, enfin, je pense que beaucoup l'ont compris, c'est que l'argent gratuit, ça n'existe pas.
Ça n'existe plus.
Et donc, finalement, moi, je vais juste résumer, le budget de l'État, c'est comme une baignoire. Je crois qu'on a tous fait des cours de physique et d'arithmétique. C'est comme une baignoire. Donc, c'est pas compliqué.
Je sais pas si ça existe encore, mais bon.
Mais vous avez en clair, vous avez une bonde avec de l'eau qui s'écoule, puis vous avez de l'eau qui arrive par le robinet. Donc, c'est pas compliqué. Si le diamètre de la bonde augmente et que vous avez de plus en plus d'eau qui coule, si vous voulez garder le niveau dans la baignoire, bah, il faut qu'il y ait de plus en plus d'eau qui arrive. Maintenant, le débit d'eau, il est limité. Donc, si vous voulez que ça continue, bah, il faut peut-être. C'est soit on accepte de réduire la bonde, soit on est capable d'augmenter le débit d'eau, soit on prend plus de bain et on prend une douche. Donc voilà, je dirais en deux mots, je dirais le résumé kafkaïen des choix. Et c'est avant tout, il y a des choix politiques qui, pour certains cas, vont demander beaucoup de courage, beaucoup de bon sens et vont sans doute se concrétiser par un suicide politique. Donc toute la question, c'est faire ce qui est bon pour le pays plutôt que faire ce qui est bon pour moi.
Les choix politiques, ça va être réformer la retraite et savoir si, enfin, si on voulait retoucher à l'assurance chômage, ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer une assurance chômage qui serait à géométrie variable en fonction de l'état de santé du marché de l'emploi, avec notamment une durée d'indemnisation qui pourrait varier en fonction des cycles. Et avoir donc une assurance chômage un peu contracyclique de manière à peut-être réaliser des économies.
Il y a quand même une politique de l'offre qui a été faite pour les cinq premières années du CPI.
Elle a commencé sous Hollande.
Elle a commencé sous Hollande, ouais. Vous avez raison.
Les impôts, ça commence sous Fillon, se continue sous Hollande, et sous Hollande, on vrille.
Exactement.
On voit qu'on est allé trop loin.
Rendons à César ce qui appartient à César. Le résultat, c'est quand même que le chômage a diminué de manière significative.
C'est objectif.
Il faut quand même regarder les choses. Là aussi, encore une fois, des choses basiques et simples.
Non, c'est objectif. Et je me souviens quand même, on a beaucoup moqué le pins de Pierre Gattaz avec son million d'emplois. On ne peut pas attribuer ce million d'emplois à telle mesure ou telle mesure. C'est un ensemble d'écosystèmes qui ont pu évoluer. Et ben, au bout de 5 ans, il y était là, le million d'emplois. Mmh. Et on était même à 1,1 million, précisément. Je me souviens, j'avais regardé. Vous êtes économiste, Philippe Askenazy. Quand vous entendez code d'alerte, dans la bouche du ministre, c'est elle est atteinte. Dans la bouche de Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est elle est largement dépassée. Oublions ces jugements. La code d'alerte sur les finances publiques, vous la traduisez comment ?
Alors, techniquement, on a les plus grandes difficultés pour avoir un chiffre de ce que devrait être une cote d'alerte de finances publiques. En tout cas, en revanche, on a les éléments d'alerte, en quelque sorte. Alors, les éléments d'alerte sont ceux immédiats, qui peuvent être les niveaux des taux d'intérêt à 10 ans, le spread que la France peut avoir par rapport à l'Allemagne. Tout ça, pour l'instant, est relativement... ne donne pas de signaux qu'on aurait atteint une cote d'alerte. On a également l'état de notre balance courante. Ce sont les pays qui perdent de l'argent en quelque sorte, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un niveau de dette élevé. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte particulière sur la balance courante.
Il y a même un événement, Philippe. La Banque de France, hier, nous a dit qu'on était excédentaire en 2021. Voilà. 9 milliards d'excédents. Le premier excédent depuis 15 ans pour la balance des paiements courants. Je rappelle qu'elle inclut tous les services et les services financiers.
Voilà.
Vraiment la balance commerciale où on parle de biens physiques.
Oui, oui.
9 milliards d'excédents en 2021.
Alors, sachant que comme il y a les histoires de prix de transfert des entreprises, etc., la balance commerciale, tout ça est un petit peu flouté et qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à regarder effectivement la balance courante, ce qui rentre en France. Oui. In fine, et effectivement, c'est plutôt à l'équilibre. On n'a jamais eu de déséquilibre extrêmement marqué.
Mais c'était un
négatif.
Mais vous comprenez, étant donné ces 9 milliards, ça ne vous surprend pas ?
Franchement, je ne sais pas.
Je suis quand même un peu surpris. Clairement,
il y a eu des rapatriements, notamment de bénéfices d'entreprises. Bon,
services financiers aussi. Hein.
Voilà, les services financiers, mais ça, c'est un petit peu. Voilà, les services financiers, c'est parce qu'on a des jeux, en quelque sorte, de transfert qui permettent de limiter les impôts en France. On les reçoit, on les paye à l'étranger, puis l'argent revient en France. Bon, voilà. Mais de toute manière, ces deux éléments-là ne marquent pas d'alerte particulière. Et si on regarde maintenant la trajectoire des finances publiques, modulo pas un nouveau choc géopolitique, par exemple. Elle n'est pas dramatique. Il faut avoir en tête que, notamment si on regarde les finances de l'État, donc là on dit on dépense 50 milliards, etc., mais chaque point supplémentaire d'inflation... à terme, se traduit par 10 milliards de plus de recettes pour l'État. Donc on va être à la fin de l'année à 6-7% d'inflation, ça veut dire 60-70, donc lorsqu'on vous me dites on donne 50, c'est à, entre guillemets à relativiser. Et il y a un effet un petit peu ciseau, notamment si vous pensez à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Actuellement, l'inflation va donc provoquer une hausse mécanique en nominal des salaires, partiellement, aussi des bénéfices des entreprises, par juste un effet prix. Mais vous payez l'impôt sur les sociétés comme l'impôt sur le revenu pour l'année 2022 en 2023. Donc l'État, lorsqu'il y a l'inflation qui se met en place, a un décalage dans ses encaissements. Donc la situation va se détériorer, effectivement, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, il y aura une amélioration l'année prochaine. Donc moi, je sens un petit peu, chez Bruno Le Maire, une manière de dire, regardez, les chiffres sont mauvais, et ça va être mieux l'année prochaine. Grâce à qui ? Grâce à moi, Bruno Le Maire.
C'est bien de rappeler ces éléments techniques. L'impôt sur le revenu, il est en temps réel, maintenant, avec le prélèvement à la source. Il n'y a plus l'année de décalage.
Attention, vous êtes en temps réel sur votre pourcentage de vos salaires. Mais vous avez des ajustements de changement de tranche, etc., qui sont pas aujourd'hui présents. Et donc, voilà, on va avoir certainement l'IS n'est pas, que je sache, encore en temps réel.
Et j'ajoute un élément technique qui va dans le sens de ce que vous dites, Philippe Ascanesi, sur l'idée que la cote d'alerte ne serait pas atteinte et même pas dépassée. C'est quand on prend le taux d'intérêt réel et la croissance nominale et le taux d'intérêt nominal, eh bien, tant que le taux d'intérêt n'est pas au-dessus de la croissance, la cote d'alerte n'est pas dépassée. Et dernier élément, lorsque l'Agence France Trésor fait une adjudication, si ses obligations partent comme des petits pains, ce qui est le cas, la cote d'alerte n'est pas dépassée. Après, je dis pas que bientôt 3000 milliards d'euros de dette, il n'y a pas un sujet. Voilà, c'était les sujets techniques. On a regardé technique. Il n'y a pas un endroit en France où on va regarder le sujet techniquement. On va tous le regarder avec la main sur le cœur, le doigt censeur. Bon, alors allez-y, vous avez le droit de sortir de la technique, là, Laurent Vronsky, et de me dire, il y a un moment, il faut arrêter de se la jouer. C'est vrai.
Je veux dire que ce que le débat sous-entend, le débat technique, c'est que les choses sont progressives et qu'il va y avoir d'abord des toutes petites alertes, puis après des alertes moyennes qui vont nous donner le temps de rectifier le tir, etc. Ben, je suis désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. La preuve, c'est que ce qu'on est en train de vivre avec la crise énergétique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est une crise énergétique, c'est une violence inégalée. Moi, ça me rappelle, alors je suis désolé, je vais ressortir mon costume d'ancien combattant. Bon, en 73, j'avais 10 ans, mais je me souviens très bien de ce qui s'était passé à l'époque. Et je dirais, c'est tombé du ciel. Il n'y a pas eu des signes avant-coureurs. Donc, en clair, la limite, elle est atteinte, mais c'est très simple. C'est le jour où on refuse de vous prêter de l'argent.
Ah, mais oui.
C'est aussi simple que ça. Donc, je veux dire,
l'Italie l'a connu, la Grande-Bretagne aussi.
Il n'y a pas besoin d'essayer de lire dans le marc de café ou les entrailles de sanglier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, effectivement, la France, elle imprime du papier, il y a des gens qui l'achètent. Le jour, si, suite à un choc exogène ou des chocs exogènes, on refuse d'acheter ce papier, la France, elle est en banqueroute.
Ah ben oui, là, c'est la cote d'alerte.
Première chose.
Là, je vous le
deuxième
confirme.
Cote d'alerte, les taux d'intérêt, je veux dire. Oui. Effectivement, les choses sont en train de monter de manière hallucinante. D'ailleurs, une petite remarque, parce que vous avez dit, effectivement, les bénéfices des entreprises vont augmenter mécaniquement avec l'inflation. Quand on a des prix qu'on ne peut pas augmenter de plus de 5% parce que l'acheteur refuse que vous augmentiez et que vous avez des coûts de fabrication, je parle pour ma paroisse, qui augmentent de 300%, les bénéfices, ils ont plutôt tendance à plonger. Donc, je pense
300%,
que
c'est la hausse de beaucoup de production.
Ah, écoutez, on a.
D'accord, non, mais.
Pas, heureusement, pas la totalité.
Oui.
Aujourd'hui, on a des matières premières, c'est 300%. Et c'est à prendre ou à laisser. On l'a expliqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, je me souviens très, très bien, il y a 6 mois, du grand débat, est-ce que l'inflation était temporaire
ou
l'inflation était permanente. Et tous les acteurs économiques de terrain que nous sommes ont tous dit l'inflation, elle est là pour rester un petit moment. Parce qu'on voyait difficilement comment ça pourrait être un peu pareil. Donc, juste pour terminer ma petite démonstration, je pense qu'il n'y aura pas de signes progressifs. C'est que si demain, il y a un vrai choc, il y a un vrai problème, ça va être soudain. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi ? 3 000 milliards de dettes, mais ça donne mal à la tête à une aspirine, quoi.
Ouais, moi, je voudrais
Christian Pouillot.
Sur le côté sémantique, code d'alerte. Je vais prendre un exemple qu'on trouve dans les voitures, dans les avions, si vous voulez. Soit la vitesse, soit le régime du moteur. On vous dit, la code d'alerte, c'est 6 000 tours, d'accord ? Parce que si vous allez au-delà de 6 000 tours, après, c'est plus la cote d'alerte, c'est le crash. Donc c'est ça, la cote d'alerte. La cote d'alerte, c'est dire qu'on a dépassé la limite autorisée et qu'après, c'est le crash. Alors après, ça pourrait être la cote du crash. Là, ce qu'on est en train d'attendre, c'est la cote du crash. Où là, il n'y aura plus rien à faire, on va se crasher. Donc la cote d'alerte, pour moi, on a dépassé la cote d'alerte. C'est, encore une fois, je reprends cet exemple d'une voiture, ça tout le monde peut comprendre. On doit rouler à 6 000 tours. Et après, ça bascule dans le rouge et on va faire péter le moteur. Bah là, on est au-delà de ça. On a dépassé la cote d'alerte. Donc, il faut tout de suite réduire. C'est ça. Donc, je pense, je soutiens évidemment les propos de Geoffroy Roux-de-Bézieux. On a dépassé la cote d'alerte. C'est l'alerte. C'est pas le crash. Là, on est en train de se dire, on n'a pas encore cracher.
Donc, j'admets, bon, pas de problème. J'admets que là, c'est l'argument est entendable.
Bah oui, oui, donc non, c'est le code d'alerte. Alerte.
Ça va, comme vous avez expliqué très, très simplement et très concrètement, Christian Parizeau, la dégradation d'un risque souverain, ça peut se faire en moins d'une semaine. Souvenez-vous, l'Italie.
Absolument.
2011, Berlusconi.
Donc je ne sais pas si c'est technique, mais c'est sémantique ça.
Non, mais je comprends très bien. Bon. On a 7 minutes. On dit un mot de la sobriété. Sobriété, c'est le mot de la semaine. Il faut baisser 10% notre consommation d'énergie d'ici à 2 ans, nous dit Agnès Pannier-Runacher. Et là, on a très bien compris que est en train de se mettre très concrètement en place les petites décisions qui pourraient intervenir de manière à ce que on soit concrètement capable de consommer moins tout au long de la journée d'électricité qu'aujourd'hui. Et donc, visiblement, c'est quand même les entreprises, c'est là que ça commence. Par exemple, décaler les horaires d'arrivée et de départ pour éviter le pic du matin, le pic du soir. Télétravail pour tous ceux où c'est possible, un maximum comme aux pires heures du Covid, voire quelquefois des arrêts quelques jours de sites très énergivores.
Moi, je trouve ça très bien, ça ne me choque pas, et les entreprises doivent faire des efforts comme les autres. Alors après, les entreprises, il y en a autant d'exemples que d'entreprises, entre celles qui sont l'industrie, celles qui sont les services comme Micropole, enfin bon, voilà, et puis les petites, les grandes, les moyennes. Bon. Mais demander aux entreprises de prendre bien conscience du sujet et d'appliquer autant que faire se peut, évidemment en préservant leur outil industriel, des mesures de sobriété, moi je trouve ça normal, et je suis convaincu que l'extrême majorité des chefs d'entreprise qui sont les gens responsables vont regarder ce qu'ils peuvent faire, bien sûr.
Alors, les administrations et les entreprises seraient concernées. Bien Par sûr. Exemple, bien pas sûr. De climatisation en dessous de 25 degrés l'été, pas de chauffage au-dessus de 19 l'hiver. Alors là, on ne va pas mettre évidemment un contrôleur devant chaque climatiseur ou chaque radiateur. Quand vous entendez que les entreprises vont être sollicitées pour faire face à un risque de pénurie de kilowattheure, car le risque de pénurie de kilowattheure existe, même chez nous qui sommes moins dépendants des énergies russes que les Allemands, par exemple.
Alors, moi, je vais vous donner un exemple qui date de la semaine dernière. Très concret, nous, pendant 45 minutes, panne de courant général. Et ça se multiplie. Donc ça, on ne vous le dit pas, on n'en parle pas dans les médias, mais nous, pendant 45 minutes, plus rien. Plus de réseau informatique, plus de machines-outils, plus rien, terminé. Et ça repart. Et je suis convaincu, on le saura jamais, qu'effectivement, il faisait très chaud, tout le monde avait mis la clim, dans la zone industrielle, et donc ça a sauté. Il y a de plus en plus de coupures de courant. Et à une époque, ça n'existait pas. Ou très rarement. Je veux dire, vous pouvez le vérifier aussi à titre personnel. Souvent, quand vous rentrez chez vous le soir, il y a des appareils électroniques qui se sont mis à zéro. Mais ils ne se sont pas mis à zéro tout seuls. C'est qu'il y a eu des coupures de courant pendant la journée.
Parfois, ça peut être des coupures techniques.
Oui, mais là, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc là, moi, je suis convaincu que, parce qu'en plus, on connaît bien le marché de l'énergie, que clairement, il y a inadéquation entre la demande et l'offre. Et qu'il y a déjà des coupures techniques. Donc là, c'est impératif. C'est-à-dire que ça vous plaise ou non, c'est que si on ne réduit pas la consommation, il y aura des périodes d'abstinence. C'est une évidence. Il y aura des blackouts. Donc, je veux dire, toutes les mesures que vous avez citées, c'est du bon sens. Mais même avant cette raréfaction, pour des questions budgétaires, effectivement, laisser la clim à fond, etc., c'était une ineptie. Mais là, je dois vous avouer que pour l'hiver prochain, ça risque d'être un petit peu challenging.
Vous avez un mot là-dessus, Philippe Askenazy, sur cette ambiance un peu particulière, cette accélération en fait de la transition énergétique.
Je ne sais pas si c'est une accélération de la transition énergétique, mais le ministre allemand de l'économie, il y a 3 jours, 4 jours, a averti que l'hiver risquerait de se passer très 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 mal.
L'hiver ne passait pas.
Voilà, ne passait pas. Le risque, c'est d'avoir en plus un hiver froid. Vous voyez, c'est dans le type de choc inattendu que l'on peut avoir. Et là, très clairement, c'est parce qu'on a une pénurie de matière énergétique qu'on va ne plus avoir le gaz russe dans l'ensemble de l'Europe qui pose aujourd'hui problème. Il faut bien faire le lien aussi, enfin, le gaz et l'électricité. On a un fonctionnement en France où pour suppléer aux centrales nucléaires, on utilise des centrales au gaz essentiellement. S'il y a pénurie de gaz, on va avoir pas en cascade pénurie d'électricité. Alors, pour l'instant, on parle beaucoup des entreprises, mais il y a un décret qui est récemment passé qui va permettre aux électriciens de couper pendant 3 heures au maximum les ménages pendant cet hiver. Donc, voilà, on risque d'avoir de manière généralisée une problématique énergétique. Et quant à la question du gaz, c'est les entreprises qui sont vraiment en première ligne. Parce que si on veut couper le gaz, vous ne pouvez pas couper le gaz chez les particuliers. Parce que si vous coupez le gaz, vous êtes obligé d'amener de faire venir une personne en intervention pour le couper et une à nouveau revenir pour le remettre. Bon, alors que pour un grand site industriel, ben, on fait venir quelqu'un. C'est, vous voyez, on peut faire ces types d'opérations pour des grands sites industriels. Donc, c'est l'industrie allemande qui est en première ligne et également une partie de l'industrie française qui sont en première ligne avec ces problèmes énergétiques. Donc ça, c'est des chocs vraiment du premier ordre qui risquent d'arriver l'hiver prochain.
C'est chaud, hein ?
Non, mais on touche du doigt. La guerre date que du 24 février. Mmh. Effectivement, je pense qu'on a tous collectivement, je me mets dedans aussi, pas pris conscience que les impacts que ça laisse produire. Parce que les impacts, c'est pas juste le 25 février que ça se produit, c'est dans le temps. Quoi, je veux dire, il y a toute une chaîne d'approvisionnement, etc., qui prend du temps pour se freiner, se ralentir en tant que tel. Donc ces effets-là, si je veux dire, je sais pas s'ils sont normaux, en tout cas, ils sont logiques par rapport à la crise de l'énergie qu'on vit, et ça va continuer. Donc dès le mois de juin, on avertisse tout le monde en disant attention, ça va être compliqué, il va falloir faire des efforts, y compris les entreprises. Bon, bah ok, il faut regarder les choses en face. Il y a une guerre, il y a une guerre énergétique. Donc, encore une fois, c'est logique d'être comme ça. C'est normal de rappeler aux gens qu'on n'est pas dans une situation normale. Je pense qu'on le vit pas vraiment. Les Allemands le vivent un peu plus, les Polonais encore plus, parce que peut-être qu'ils entendent le bruit des canons. Mais il y a une guerre à 1500 km de nos frontières.
Oui, une guerre comme on n'imaginait pas, en retrouver à l'ancienne aux portes de l'Europe et avec l'idée qu'on pourrait manquer de courant, un truc qu'on n'imaginait pas non plus possible. Allez-y, Laurent. Oui,
je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas. Je veux dire, mon regard un petit peu historique sur les 70 dernières années. Alors, je rassure notre auditeur, je n'ai pas 70 ans. mais c'est qu'on a vécu une période, je dirais, d'abondance en tout. Et je rappelle que quand on est rentré dans le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui produisaient trop, qui se demandaient comment elles allaient faire pour écouler leurs marchandises. Et quel renversement de situation. Là, maintenant, sur des biens essentiels, l'huile de tournesol, hein, on ne parle pas des terres rares. Hein. Je dirais sur des choses comme ça, sur de la boutarde, sur des biens qui font partie du quotidien, il y a de la pénurie. Donc là, maintenant, on est en train de se dire, bah, tiens, peut-être qu'il faudra sortir les manteaux parce qu'on n'aura pas d'électricité ou on n'aura pas de gaz. Alors, c'est pas une menace, c'est pas un hochet, je dirais, pour faire peur aux gens. C'est la vraie vie. Et quand vous disiez, monsieur, qu'effectivement, dans les entreprises, vous avez un petit monsieur qui vient et qui coupe le courant, nous, la semaine dernière, personne ne nous a prévenu. Tout s'est arrêté net, système informatique compris. Et là, vous ne pouvez rien faire, quoi. Vous êtes pris en otage. Et donc, je pense qu'on rentre dans cette dynamique.
Bon. On va s'arrêter là, parce qu'il reste que 40 secondes. Je voulais vous demander si vous avez encore confiance dans vos baisses d'impôts de production comme elles ont été annoncées.
Oui.
Moins de moins en moins.
Hein. Non. Mais parce que le raisonnement, c'est quand même c'est ça qui a aidé à la création d'emplois et au dynamisme de l'économie française.
Ça ne va pas être mis en cause, ça pourrait être étalé dans le temps. Hein.
Ah, étalé, oui, c'est possible. Le discours, y compris au plus haut niveau de l'État, est toujours de dire oui, il faut continuer à les baisser.
C'était Philippe Askenazy, Christian Poyot et Laurent Vronsky. On se retrouve demain à 9h.